Chapitre 9. Visite. Thérèse Lemaire rentrait de son dîner à Queensgate vers 11 heures et, après avoir subi et rendu le bonsoir de Muggeridge, espérait bien atteindre sa chambre sans rencontrer personne. Elle comptait sans Connie la curieuse qui entr'ouvrit sa porte et appela à demi-voix « Mademoiselle ! Mademoiselle !»« Eh bien quoi ?» fit Thérèse sans s'arrêter. « Entrez chez nous une minute, vous nous raconterez. Julia et moi, nous sommes restés debout exprès. Ça s'est bien passé ?»« Mais très bien, pourquoi pas ?»« Oh, ne sortez pas tout de suite vos griffes !»« C'est vrai, après tout, se dit Thérèse, que je suis désagréable sans raison. » Elle entra dans la chambre des deux aînés, où elle avait déjà été invitée une fois pour admirer le minuscule hôtel de la Sainte Famille, ses cierges gros comme des crayons, et le petit pot de fleurs artificielles, l'ensemble pour dévotion de poupées. « Asseyez-vous, » fit Connie avançant une chaise, « et dites bien tout depuis le commencement. Maman s'est informée. Avez-vous remarqué que les Harrison sont des gens très riches, très religieux, très collémontés ? Belle maison, n'est-ce pas ?»« J'ai très mal vu ce que j'ai vu, » dit Thérèse, se laissant aller à ses impressions. « Je crois que j'ai été reçue dans une bibliothèque. Très sombre, l'éclairage est aux bougies, et dans la salle à manger, il y avait 4 flambeaux d'argent aux 4 coins de la table. Un peu lugubre. Le dîner, quel genre ? De très grands plats et cloches d'argent. Ce qui m'a amusée, c'est un pâté de pigeons avec 4 têtes de pigeons qui sortaient de la croûte, l'air vivant, ma parole. Cela m'a presque coupé l'appétit. » « Mode ancienne, vieux chic, très anglais. Et la conversation ?»« On a été très aimable, on m'a questionné sur la famille notable de Genève qui m'a recommandé, et comme je ne la connais pas du tout, je n'ai rien eu à dire. »« Vous auriez pu inventer. Comment avez-vous eu cette lettre ? C'est ce que maman s'est demandé. On n'entre pas à Queensgate rien qu'en tirant la sonnette. » Les Harrison, l'année dernière, avant leur deuil, donnaient chez eux des soirées de musique classique. Notre vénérée mère paierait cher pour y être invitée. Vous savez qu'ils ont perdu leur fils unique ? Non, murmura Thérèse, qui cherchait dans sa mémoire les bribes de la conversation qu'avaient éclairées, pendant le dîner, des sortes de torches funéraires. Mais votre lettre, insista Connie, sous quel prétexte l'avez-vous obtenue ? « Mon pasteur, dit Thérèse, qui s'efforçait de garder sa bonne humeur, connaît à Genève une famille liée avec M. et Mme Harrison. C'est aussi par lui et par d'autres amis genevois que je suis recommandée à Mrs. Craig et à Miss Keddy. » « Un trio de personnes moraves et embêtantes, » fit Julia qui n'avait encore rien dit. « En savez-vous assez ?» demanda Thérèse. « Puis-je monter me coucher ?»« Vous n'êtes pas forte sur les descriptions, savez-vous ? « Vous a-t-on invité pour une autre fois ?»« Non, on a parlé vaguement d'une cérémonie, une inauguration, pour laquelle on m'enverra une carte. » »« Maman dit que Monsieur et Madame Harrison dépensent des sommes folles pour une sorte de palais du peuple qu'ils ont fondé dans des quartiers où personne ne va. Avouez, mademoiselle, que vous vous êtes ennuyée dans les grands prix. » « Mais non, pas du tout. On était trop bienveillants pour que je fusse mal à l'aise. »« Tant mieux, tant mieux. La prochaine visite sera-t-elle pour Mrs. Craig ou pour Miss Keddy ?»« J'enverrai mes lettres dès demain. Il n'y a que le premier pas qui coûte, » fit Thérèse en riant. Elle s'esquiva. Elle était très contente de sa soirée un peu morne, mais paisible, dans un milieu où rien ne l'avait choquée. Le dimanche suivant, après un vrai combat intérieur, elle se refusa d'aller à l'église. Elle étouffa un petit désir inavouable et presque inavoué de rencontrer de nouveau son inconnu, de causer avec lui gentiment, en camarade, qui se découvre certains points de sympathie. Non, il était plus convenable, plus prudent surtout, de ne chercher aucune espèce d'aventure, même si innocente. Quand on est institutrice, hélas, il faut se clôturer strictement derrière le barbelé des conventions les plus strictes. Journée grise, leçons à surveiller, ennuyeuse préparation d'allemand et de français, promenade monotone au parc, conversations insipides et le cours Sylvain d'une stupidité sans nom. vie trop pesante vraiment pour une âme de 20 ans tout à fait indisciplinée. Le jeudi, comme Thérèse rentrait très mécontente avec Julia, qui avait été de mauvaise humeur tout le temps de la promenade, le butler lui annonça qu'une dame l'attendait au salon. « Au salon ? » s'exclama la désagréable Julia. « Vous vous trompez, me gringe. Les personnes pour mademoiselle attendent dans la salle d'études. » « C'est madame qui m'a dit de faire entrer au salon quand elle a vu la carte de cette dame. Et madame y est allée elle-même recevoir cette dame. » « Sapristi ! » sifflota Julia entre ses dents. « Est-ce que ce sera Mistress Harrison ?» Non, Thérèse trouva dans les splendeurs des grands miroirs et des meubles dorés une petite personne en noir, en chapeau-capote de vieille dame, très digne et réservée, que Madame Naïmol comblait de prévenance. « Enfin, voici Mademoiselle Thérèse. Venez vite que je vous présente !» s'écria la maîtresse du logis. « Je vous assure, Miss Keddy, que Mademoiselle Thérèse et moi sommes tout à fait sur le pied de deux sœurs. » Miss Keddy parla peu, elle prit la main de Thérèse entre les deux siennes et l'y garda un instant. Elle avait un joli sourire un peu timide. Son anglais se nuançait d'un léger accent écossais que Madame Naïmol déclara ensuite tout à fait distingué. Elle dit doucement qu'elle était venue pour abréger les délais et demanda si elle pourrait peut-être enlever tout de suite Mademoiselle Lemaire et la garder à dîner. Elle avait une voiture à la porte. Tout s'arrangea avec une adorable facilité. Le logis charmant, plein de livres et de fleurs, enchanta Thérèse. Mais quand la vieille dame, après le dîner, lui demanda à brûle-pourpoint « Êtes-vous heureuse dans cette famille ?» Une émotion presque physiquement douloureuse la prit à la gorge et étrangla la parole. « Bon, je vois ce que c'est. Je connais le mal du pays. Il faut s'acclimater, » fit la bonne Miss Keddy pour laisser à Thérèse le temps de retrouver sa voix. « Et puis, vous savez, il y a d'autres maisons que celle-là. On vous y apprécie d'ailleurs. Vous les formerez. » « Ah non, c'est eux qui me forment, ou plutôt me déforment !» essaya de dire Thérèse, qui ne trouvait pas aisément en anglais l'expression adéquate. Miss Keddy ne savait pas le français. Combien la conversation était plus facile avec le compagnon, Thérèse pensait presque à l'ami, anonyme, qui suivait avec tant d'aisance les méandres d'une causerie où chacun des deux employait la langue qu'il connaissait le mieux. « Je ne vous serai pas très utile, » fit la vieille dame au moment du départ. « Je vis tout à fait retirée, mais vous me ferez toujours plaisir en venant me voir. » Les Anglais ne se confondent jamais en promesses, mais ils tiennent en général plus qu'ils n'ont promis. Un jour à la campagne, ce fut l'événement lumineux d'une morne quinzaine. Pour la première fois de sa vie, Thérèse, dont la jeunesse s'était écoulée dans un Jura sévère, comprenait l'expression qu'elle avait toujours crue plus poétique qu'exacte, une pelouse émaillée de fleurs. Jamais elle n'avait vu tant de primevères, de scillas et d'anémones que dans le ravissant petit bois bordé d'un ruisseau où Mrs. Craig lui fit faire une promenade après le déjeuner. Et Mrs. Craig, elle-même, était un tableau. Thérèse, pleine d'émoi, intimidée, un peu haletante, s'était préparée pendant tout le trajet au choc de rencontrer une autoresse célèbre. Elle avait été accueillie d'une façon simple et amicale par une femme déjà âgée, belle comme un portrait ancien dans sa robe de velours noir à longs plis, que retenait une ceinture d'argent ciselée, et sous la dentelle blanche qui couvrait à demi ses bandeaux grisonnants. Les vrilles et les rameaux reverdissants des plantes grimpantes du porche l'encadraient, et les fenêtres basses à meneaux blancs, à petits carreaux irisés, style Renan, brillaient autour d'elle comme des étoiles. D'admiration, Thérèse fut muette un bon moment. Elle s'était proposée, au cours de sa visite, de poser quelques questions à cette dame écrivain au sujet de ses livres. Mais elle resta incapable d'aucune initiative dans la conversation et s'y laissa tout bonnement guider. Missy Craig lui demanda, c'était inévitable, si elle aimait l'Angleterre et lui conseilla de consigner dans son journal ses premières impressions d'un milieu nouveau afin de les retrouver plus tard dans toute leur fraîcheur. « Oui, je ferai cela, » dit Thérèse. « J'ai déjà écrit une page ou deux pour une revue de jeunes filles de chez moi. » Pourriez-vous me les laisser voir ? Fit très obligeamment Mistress Craig. Se prêterait-elle à être traduite en anglais ? Nous avons aussi nos magazines pour les jeunes filles. Mon mari est éditeur, comme vous le savez sans doute. Il peut ouvrir des portes. « Oh, madame !» s'écria Thérèse d'un élan. « Si j'osais espérer gagner ma vie ainsi, c'est si affreux d'être une gouvernesse !» Instantanément, il lui parut que Mistress Craig rentrait dans sa coquille. « N'exagérez-vous pas un peu ? » fit-elle avec quelque froideur. « Je ne voudrais pour rien au monde vous faire sortir de votre voie. L'enseignement peut être une carrière très intéressante. » Ce fut à Thérèse à battre en retraite. « Excusez-moi, madame, j'ai eu un peu le mal du pays. Je ne comprends pas très bien mon milieu d'à présent. Mais je n'ai pas du tout l'intention de brûler mes vaisseaux. Pas pour le moment, en tout cas. Vous ferez bien. Vous êtes dans une famille respectable, bien traitée, je l'espère. Il ne faudrait pas quitter la proie pour l'ombre. » « Ah, que j'ai été maladroite de nouveau !» gémit Thérèse en son pardedans. « Mistress Craig a-t-elle eu peur que je lui tombe sur les bras ?» Le joli thé dans un salon fleuri, des paroles cordiales, des appréciations aimables de Mistress Craig sur le petit Neuchâtel qu'elle connaissait bien, remirent d'aplomb peu à peu l'impressionnable jeune fille qui effaça de sa mémoire un court moment assombri pour ne garder qu'une peinture, aux couleurs vives et douces à la fois, comme un printanier bouquet.